Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Elle.
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 On la retrouve sur le palier, non pas chez elle, mais juste en face. Une pièce à part, une chambre à soi, un lieu où elle peut tout à la fois travailler, lire, écrire, dans ce quartier bouillonnant de la Bastille, peut-être même rêvasser. Virginie Efira a l'habitude de donner ses interviews ici, dans ce bureau tamisé. De l'autre côté du mur, c'est la vie de famille, qui vient justement de s'agrandir. Un petit garçon est né au cœur de l'été. Et si Virginie Efira avait trouvé l'équation magique, tout rassemblé, mais cloisonné? Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois.
Je me suis trompée.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pardon.
Merci.
J'ai une sorte de studio, là. Ça va?
Oui.
Ouais, très bien, super, sympathique.
Ce moment où l'on se sent enfin en adéquation avec soi-même. Un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. Comédienne césarisée, figure ô combien appréciée et incontournable du cinéma français, Virginie Efira s'est longtemps interdit d'y croire. C'est en découvrant ses talents d'improvisation, par hasard, dans La Nouvelle Star, qu'elle a trouvé le courage de jouer. Pour de vrai. Je suis Marion Ruggieri. Bienvenue dans Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Virginie Efira, bonjour.
Bonjour.
Il paraît qu'à 15 ans, vous disiez à votre père « je veux être une star ».
Ah ouais.
Est-ce que c'est vrai?
Non, alors je ne l'aurais pas affirmé comme ça à mon père en plus, parce que je sais que ça l'aurait fait complètement soit bondir, soit peut-être un arrêt cardiaque précoce, quoi. Mais non, donc pas à mon père en tout cas. Mais il devait savoir, et, parce que je me souviens de son inquiétude. Et l'inquiétude, elle n'allait pas dans le sens, si je lui ai dit, je vais apprendre les grantesques, voilà, Racine me passionne, me fascine, il n'y aurait eu aucun souci. Mais qui sentait qu'il y avait un rapport à la notoriété, ce qu'il trouvait très douteux. Et ce que moi-même, avec le temps qui passe, je me suis dit, mais pourquoi il y avait cette envie-là, alors que j'étais quand même assez aimée. Enfin, je ne vois pas la carence originelle.
Et vous avez une réponse aujourd'hui ou...
Je sais qu'il y avait un fantasme sur les actrices qui allait bien au-delà de l'idée du jeu, qui me plaisait aussi, que je connaissais concrètement, puisque je faisais du théâtre, je montais des pièces et tout ça. Mais il y avait tout un délire que je me faisais sur la vie présumée, quoi. Les 18 mariages, les fêtes, enfin un truc très commun à beaucoup de petites filles ou de petits garçons, hein, quand même. Mais je crois qu'à un moment donné, j'ai fait un déni de ça. Même en interview, quand je faisais des interviews, je disais, ah non, moi, les grands textes, auteurs. Et puis après, moi, je me dis, bon, ben, en fait, non, il y avait... Je me souviens d'une fille, j'ai hyper honte de ça, d'une fille avec qui j'étais à l'école en primaire. Mon primaire, je sais pas, on dit pas ça en France.
Si, primaire.
On dit primaire aussi, ok. Qui m'avait dit, ah, je me souviens, c'est chouette que tu sois devenue ça, parce que tu voulais toujours faire tes autographes partout. Je me dis, mais enfin, moi j'ai une image, j'avais une impression de moi beaucoup plus valeureuse, une petite fille dynamique, sympa, humble. Ben non, en fait je faisais des autographes, j'ai fait un déni du truc. Pourquoi ça? Donc oui, mais après je devais être fascinée par le monde qu'il y avait autour. Et maintenant, j'arrête pas de dire l'inverse à ma fille qui a 10 ans, c'est-à-dire qu'être connue n'apporte aucun bonheur. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Avoir une reconnaissance, c'est-à-dire que des gens que vous aimez, que vous estimez, avec qui vous travaillez, ont envie de retravailler avec vous, et qu'on trouve que vous êtes plus ou moins à votre place dans ce que vous faites, ça, c'est super. Mais la notoriété en tant que telle n'est pas un amour qui vient combler toutes vos failles et tout votre machin. Parce que d'abord, ça peut partir du jour au lendemain. Donc oui, en fait, c'est pas grand-chose, mais c'est parce que j'en ai fait l'épreuve en passant par la télévision, où là, il y a une autorité très forte, parce qu'on va vraiment dans le salon de beaucoup de gens. Je vois bien que c'est pas à cet endroit-là que ça peut être un but. Mais clairement, ouais, je pense qu'à 10-15 ans, ça me faisait fantasmer terriblement, quoi.
Juste une petite parenthèse, nous sommes ici dans votre bureau, non loin de chez vous,
oui.
Et il y a un autographe de Julia Roberts.
Ouais.
En tout cas, une photo dédicacée par Julia Roberts, une photo extraite de Pretty Woman où elle est dans son bain à bulles.
Alors, j'ai une passion pour les gestes de Julia Roberts. C'était vraiment quand le film est sorti, Pretty Woman, je devais avoir 15-16 ans. Il n'y avait pas du tout de la grille de lecture d'aujourd'hui de qu'est-ce qu'un film Me Too, qu'est-ce qu'un film post-Me Too, pré-Me Too, etc. Parce que le film, quand je l'ai montré à ma fille, justement, je me dis... Ouais, ça mérite quelques explications en plus. Mais indépendamment de ça, il y a l'apparition de cette femme qui marche comme un camionneur, qui a une beauté incandescente, qui a un truc d'enfant. Ses gestes, c'était moi j'étais folle d'elle complètement. Et donc j'adore Julia Roberts, mais il y a quelqu'un que j'aime au moins autant que Julia Roberts, c'est Rebecca Zlotowski, avec qui j'ai fait Les Enfants des Autres. Donc je suis folle comme réalisatrice et comme fille dans la vie aussi. Et c'est un cadeau de Rebecca Zlotowski qui m'a fait un faux, je vous avoue tout, là.
Une fausse dédicace.
Fausse dédicace, autographe de Julia Roberts, qui n'aurait pas mis quand même To My Role Model. Tu vois, j'aimerais beaucoup l'inspirer, mais on n'en est pas là encore, hein, du tout.
Virginie Efira, vous étiez quel genre d'ado, si vous deviez vous décrire à l'époque ?
La première chose qui me vient, c'est l'extérieur, quoi. Quand je me visualise là, et on est quand même on n'est pas dans de la grande discrétion, justement. Donc, c'est un maquillage outrancier, beaucoup. Parfois, je portais des tenues où, quand j'arrivais à l'école, on me disait : vous pouvez retourner chez vous. Les jupes étaient trop courtes. Si c'était long, il y avait des espèces de grandes franges. Pas le chic. C'était pas le chic absolu. Il y avait, bon, alors moi, j'étais à l'époque où il y avait si on mettait des baskets, c'est les buffalo, quoi. Donc, avec les grosses semelles compensées. Les talons aussi compensés. Il y avait vraiment l'esthétique, elle était très... d'ailleurs, j'ai travaillé assez tôt en boîte et tout ça, dans des endroits, il y a les drag queens, tout ça, qui sont maintenant revenus, mais j'étais un peu sur un... Enfin, j'étais très drag queen, quoi, tu vois, sauf que, bon, j'étais une meuf de 16 ans, donc... voilà, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, artifices, tout ça. Et en fait, du coup, ça m'a donné, puisqu'il faut être tendre avec soi-même, beaucoup d'affection pour les filles qui sont un peu comme ça, où j'aurais envie de les démaquiller moi-même maintenant, mais je vois le manque de confiance en soi et le fait de combler par beaucoup, beaucoup de choses, ça me touche.
Vous rêviez de cinéma déjà ?
Ouais, grave.
Ouais, ça se traduisait comment ?
Bah, du coup, il y a le penchant noble et le penchant moins noble. On a parlé du penchant moins noble, c'est-à-dire le fantasme d'une vie très opposée à une forme de chose plus raisonnable que je vivais, quoi. Je veux dire, j'ai un permis de sein, c'était assez sérieux, quoi. À l'école, on travaillait, j'avais des devoirs après. Même si je voulais être actrice, on m'avait mis en latin maths. C'était pas du tout l'enfer, mais c'était raisonnable. Que je faisais pas beaucoup de bêtises. Enfin, quand j'en faisais une mini, j'ai l'impression que c'était vraiment la révolution. Enfin, bon, non. Donc, il y avait un fantasme d'autres choses, plus exotiques et tout ça. Et l'autre rêve de cinéma, désir de cinéma, il vient par une impression, en tant que spectatrice, que quand j'allais au cinéma, quelque chose se déroulait qui pouvait pas se dérouler ailleurs. Je me souviens de mon père qui se foutait de ma gueule parce qu'on pouvait pas critiquer de films. J'avais moi-même un petit cahier où je notais des critiques de films, mais quelque part, je trouvais pratiquement tout bien tellement j'étais en exaltation du cinéma. Je me souviens, j'ai vu tous les films américains des années 90. J'avais une tante plus âgée qui voulait aller voir un film de Zhang Yimou, un film chinois. Je me disais, oh non, j'ai pas tellement envie, ça, c'est quoi ça. Et puis, je vais voir Épouse et concubine, et ça n'a rien à voir avec ma vie pour le coup, et ça a un choc esthétique et tout ça. Je me souviens de Raging Bull, je me souviens où je suis, à la mer du Nord, à Nieuport, avec ma mère. Il passe ça à la télé le soir, et je me dis, oh, un truc sur la boxe en noir et blanc. Puis on découvre que c'est fou, quoi, que c'est génial. Donc il se passait quelque chose comme un accélérateur d'émotion, de vie, d'agrandissement des espaces, qui était assez fondamental. Tout passait par là, en fait. Les lectures, les magazines que j'achetais, mon petit cahier de critiques, les gens que j'ai découverts après, une rencontre, je me souviens, avec une fille qui s'appelle Morgane, une Française, en vacances, et moi je lisais encore Ok Podium et des choses comme ça, elle était déjà sur les cahiers du cinéma et tout, et c'était découvrir du coup d'autres œuvres. Je me souviens quand on allait voir Merci la vie ensemble, de Blier, au cinéma, ou qu'elle m'a fait découvrir Le Locataire de Polanski, qui m'a vraiment hanté pendant... Enfin, je sais pas, plein de choses comme ça, c'est tout... en fait tout passe par des films.
Vous avez tout de suite suivi des cours de théâtre, est-ce que vous vous souvenez de votre arrivée au conservatoire par exemple?
J'ai une innocence à ce moment-là. Je ne connais pas bien, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas d'ailleurs si on vaut quelque chose. J'ai un manque de confiance, mais et c'est marrant parce que justement, je présente Phèdre de Racine, qui est un rôle pour une femme plutôt de l'âge que j'ai aujourd'hui, quoi, hein, puisque c'est une femme âgée qui sort avec un mec plus jeune, enfin Hippolyte, le mec quoi, en question. Et, bon, bref. Et là, j'avais 18 ans. Mais je ne me posais même pas la question. Je me disais, oh ben, moi, j'adore ce truc, donc allons-y. Et je me souviens que d'ailleurs, je me souviens des professeurs qui sont assez emballés. Je me rappelle, donc je suis prise à cet examen d'entrée, je me souviens d'un emballement, et je me souviens d'une déception qui a suivi, une déception de leur part. C'est un truc spécial, quand on n'est pas encore à 18 ans, on n'est pas tout à fait formé, si je puis dire. Enfin, c'est spécial, parce qu'on n'arrive pas à avoir une idée de nous-mêmes, on a besoin que les autres nous disent un peu aussi qui on est, enfin... C'est un peu flou, tout ça. C'est encore une forme d'adolescence. Et du coup, c'est cette chose où tout d'un coup, je sens que je plais, puis je sens qu'après, on est déçu. Et une déception parce que j'ai peur, en fait. Je ne sais pas quoi faire de la peur. J'ai peur. J'ai peur quand il faut faire, quand il faut jouer, d'aller trop loin, de perdre quelque chose. Je n'arrive pas à être libre. Je n'arrive pas. Donc, c'est très compliqué, quoi, ce moment-là. Et donc, j'ai fait un an là, et puis c'est après que je suis rentrée au conservatoire. Et là, justement, ils étaient très gentils avec moi, et du coup, je les trouvais nuls parce que je me suis dit, bah,
s'ils sont gentils, c'est que...
Voilà, et tout ça se reproduisait aussi dans ma vie, enfin, la fille qui va absolument raconter sa vie privée, mais dans ma vie amoureuse aussi, enfin...
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aviez l'attention,
si vraiment
c'est que
vous trouvez super, bon, c'est très commun aussi ça. Si vous ne validez pas vous-même, si vous ne trouvez pas super valable, si quelqu'un vous trouve valable, vous dites bah, il n'a rien compris lui, hein, parce qu'il n'a pas vu que j'étais une grosse nulle. Donc c'est tout un apprentissage. C'est pour ça que moi j'ai un parcours qui est un peu biscornu, qui est après passé par la télévision et tout ça. Ce qui fait qu'à l'école, c'était. Je me dis merde, il y a quelque chose que je n'arrive pas à toucher, c'est con parce que j'ai voulu faire que ça. Et face au réel, je n'y arrivais pas.
Mais alors justement, comment la télé se ferait-elle un chemin dans votre vie à cette époque?
Ça, c'est des choses qu'on décide absolument pas. J'aurais vraiment pas décidé ça si j'avais pu l'écrire, quoi. Bah, donc, je fais quand même deux écoles de théâtre. Je me barre de l'école de théâtre après le conservatoire pour jouer avec une troupe un peu. Bon, voilà. Et puis, bah, je vous dis, j'étais serveuse en discothèque parce que mon père... et c'est un apprentissage que j'espère garder... que j'aurais le courage de garder avec ma fille, mais il y avait un côté, si tu pars, tu t'assumes financièrement. Je veux dire, c'est pas lui qui allait me payer mes trucs et tout. Donc je bossais, moi, j'ai bossé dans tous les restaurants, tous les bars de Bruxelles et tout, et je travaillais en discothèque aussi, parce que c'était rigolo. Donc j'étais en boîte, et donc là, vraiment, comme dans les, enfin, je veux dire, comme dans les films américains, le côté, j'étais à la piscine, un producteur m'a vu, il m'a proposé, sauf que moi, c'était pour animer une émission pour les ados, avec deux couettes sur la tête. Donc je me suis dit, merde, je vais finir dans un truc comme ça. C'était une émission en Belgique, où on invitait des chanteurs, mais c'était pas, c'était pas Étienne Dao, quoi, hein, c'était les Worlds Apart, et c'était l'époque des Boys Band. Bon, donc au début, je me suis dit, bon, donc ça va être ça ma vie, ok. Et puis après, j'ai épousé ce personnage-là, ou en tout cas ce truc-là, parce que c'était assez drôle à faire. J'ai bien aimé. Mais et puis ça, tout d'un coup, je me disais que je pouvais être moi, que je pouvais utiliser de l'humour quand même pour prendre une distance sur les choses. Et puis, il faut accepter. J'avais peur ailleurs. Là, je n'avais pas peur. C'était comme je n'étais pas fascinée complètement par le monde de la télévision et tout ça, loin de là. Du coup, je n'avais pas peur du tout. Mais du coup, ça se passait bien. Enfin, les gens trouvaient ça plutôt bien ce que je faisais.
En France, il y a eu La Nouvelle Star. Ça a changé quoi concrètement dans votre vie à cette époque ?
Bah, la Nouvelle Star, franchement, quand ils m'ont proposé, j'ai pas du tout, je me suis pas dit, wow, génial. Hein. D'abord, je regardais pas l'émission du tout. Moi, je regardais pas la télé quand j'en faisais. J'ai commencé à regarder quand j'ai arrêté. Donc, je connaissais pas l'émission. Je savais qu'elle avait du succès, tout ça. Je me dis, et je commençais à me dire que peut-être que je pourrais bifurquer vers quelque chose d'autre. Et je me dis, merde, cette émission, elle est hyper connue. Donc, si je la fais, c'est terminé pour moi de pouvoir faire autre chose. Je savais bien que c'était un peu illusoire en étant animatrice de vouloir être actrice. Hein. C'est un peu par hasard finalement que j'ai réussi à le faire. Mais... donc je me suis dit, flûte, là, ça va être compliqué. Donc j'avais réussi à négocier un truc avec M6. C'était quand même vachement bien. Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est que c'était la première fois où j'étais fière, pas de moi, mais de ce qui m'entourait. C'est-à-dire que bah, je trouvais l'émission bien. C'est-à-dire tout d'un coup, ça prenait un peu de sens. Il faut trouver du sens un peu aux choses. Déjà, trouver un sens à la vie, c'est pas évident, mais essayer. Et là, j'ai trouvé un peu de sens à l'émission. C'était une émission très populaire, 20h50, la famille, et qui mettait les choses vers le haut. C'est-à-dire que quand même, il y avait c'était très joyeux à regarder. En plus de ça, ils chantaient des choses intéressantes. Enfin, voilà, quand Manoukian parlait ou Marianne James, bah, il y avait un à propos. Enfin, c'était vraiment assez rare quand même. Je trouvais ça vraiment chouette, donc j'aimais bien ce qu'il y avait autour. J'aimais bien le direct, tout ça, oui.
Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes sentie enfermée dans cette place un peu qui se dessinait? Est-ce que le risque, c'est de devenir ce que l'on pense de vous, en fait?
Je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais bien que j'avais une petite gêne de moi-même, une petite honte, un truc, et que il s'agirait d'avancer en étant plus en accord avec ce qu'on fait. Alors, il faut partir. C'est ce que j'ai fait.
Alors, justement, quel est le tournant? Quelle est la bascule? Quelle est la première fois où vous vous êtes peut-être senti véritablement à votre place?
Alors, la bascule, je dirais, il y a deux choses. Il y a un truc qui est de nouveau très, très anecdotique, mais qui... un peu couillon, mais peut-être pas si inintéressant. Je me souviens d'une fois, en présentant l'émission, que il y a des encarts publicitaires, forcément, tout ça, et qu'on me dit « la pub ne part pas, il faut que tu ailles meubler ». Je me suis dit « mon Dieu, non, mais... moi j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter, parce que moi j'écrivais tout, mais mes blagues, enfin, j'avais aucune confiance, enfin, je veux dire, il fallait quand même que ça soit... moi c'est rien ». Donc si je dois commencer à parler, donc on me dit ça, et là je suis obligée en fait d'aller devant, il y a des millions de gens qui vous regardent et vous devez parler quoi. Et en fait j'y arrive, je pense pas que j'ai sorti vraiment que là, que voilà, c'était pas Kant, hein. Enfin, je veux dire c'était pas une inspiration philosophique de malade. Mais enfin ça allait quoi, j'ai réussi. Et donc c'était une idée comme ça que parfois quand on se lance dans l'inconnu, il y a aussi des choses de vous qui vous rattrapent. C'est complètement couillon, mais ça, je me souviens que ça m'a quand même marqué ce truc-là. Et puis, en fait, ce qui est décisif après, c'est tout ça vient un peu, se met en place par plein de choses, c'est qu'on n'a plus peur de rater, en fait, parce que... Vous savez, il y a un truc, c'est marrant, parce que je ne sais plus, hier ou avant-hier, j'écoutais justement un podcast, c'était une interview d'une fille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lola Lafont, qui est une femme,
une écrivaine
géniale. Et elle parlait, et elle citait un passage d'un livre de Joyce Carol Oates. Et donc je vais reciter Lola Lafont qui cite Joyce Carol Oates et qui disait que quoi qu'on fasse dans la vie, à n'importe quel moment qu'on le fasse, pour quelque raison qu'on le fasse, en face de vous dans la balance, il y a le néant et la mort, quoi. Je veux dire que c'est ça la lutte, en fait. C'est ce qu'on fait là, ou le néant, la mort. Et elle précisait, Lola Lafont, que c'était pas dans le travail simplement, c'est aussi dans l'amour, enfin dans tout. En fait, si on se souvient qu'on est mortel, enfin mon Dieu, ça anime quelque chose. Donc qu'est-ce que c'est que rater? Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Et je sais pas, il y a un moment, il y a une compréhension physique de ça. Peut-être parce qu'on vieillit, ou peut-être parce que moi j'étais en retard, ou peut-être parce que c'est venu à ce moment-là, que grâce à la télévision, j'ai plus confiance, ou je sais pas, des petites choses comme ça, qui font qu'à un moment, je me dis, si je suis pas tout à fait satisfaite là, que j'ai l'impression qu'il y a encore un espace entre moi et le monde, bah, c'est qu'il faut bouger. Et que je pouvais me défaire, j'étais pas obligée d'avoir ce salaire-là. J'avais pas d'enfants à nourrir, j'étais pas obligée d'avoir un confort encore. Donc, bah, alors c'est vraiment là qu'il faut essayer. Et même si tout le monde me disait, oui, mais en tant qu'animatrice, voilà, t'es très demandée, actrice, ça va être compliqué, il y en a 200 000. Bon, ben d'accord, c'est pas grave en fait, je suis pas obligée de. Mais je veux essayer cette chose-là. Et donc, je commence à faire des films. Au départ, c'était compliqué parce que. Que personne, et je comprends, n'avait envie de voir une animatrice télé gentillette, enfin sympatoche, au cinéma, quoi. Bon, voilà, puis on me disait aussi des phrases, genre les gens ont l'habitude de ne pas te payer pour te voir, je ne pense pas qu'ils vont se mettre à payer pour te voir. Enfin, ok, bon d'accord, c'est super. Et puis je fais des films, et c'est vrai que je sens tout de suite, hein, mais ça c'est un bonheur physique. C'est-à-dire que quand je commence à faire des films, tout d'un coup, je n'en reviens pas, qu'en plus ça soit un métier où on est payé, tout ça, d'avoir des scènes, d'essayer de comprendre un sentiment. Enfin, voilà, donc ça, c'est déjà l'exaltation de découvrir un plateau, d'essayer de faire ce qu'on me demande. Donc, il y a déjà vraiment une grande exaltation. Assez vite, je fais des films chouettes, mais je me dis, tiens, je crois que j'ai besoin que les films soient des films que j'aurais envie de voir au cinéma. J'ai accepté mon emploi, parce que j'ai eu un emploi très fort dans les comédies romantiques et tout ça. Super, mais il faut que les films aient aussi une exigence esthétique, philosophique, enfin, que ça raconte quelque chose. Que, comme je vous disais sur La Nouvelle Star, il faut que je sois fière de ce qu'il y a autour de moi, quoi. Peut-être que là, il y a deux tournants, il y a à la fois 20 ans d'écart, où je rencontre le metteur en scène et tout ça. Et je me dis, tiens, là, il y avait une ambition de cinéma, il y avait une exigence et tout ça. Et je me souviens que sur le tournage, je me dis, ah, je trouve que c'est chouette ce qui se passe autour. Voilà, donc je continue complètement dans la même ligne, comédie romantique, machin, mais il y a quelque chose en plus. Je trouve qu'il y a quelque chose en plus et je découvre un petit truc sur le jeu. C'est-à-dire qu'avant, je joue, mais c'est un peu... On a une conscience de soi. J'avais une conscience, et je me rappelle... Je la voyais, celle-là. Puis le réalisateur l'a vue aussi. Je me souviens qu'il m'a parlé. Il m'a dit, attends, Virginie, moi, c'est important pour moi, ce film. Je ne sais pas, le fait qu'il me parle de l'importance que ça avait pour lui, ça permet de détourner de soi. On se regarde un peu moins. Et puis, on se projette, en fait. Il y a quelque chose où, d'un coup, on ose aller vers un inconnu, plus fort. Donc, il y avait un peu plus de liberté. Et puis, le grand endroit, là véritablement, où moi, je me suis sentie complètement à ma place... Et après, attention, parce que quand on se trouve très fort à sa place, on veut reproduire ces choses-là. Et on ne peut jamais reproduire quelque chose. Donc, il faut perdre sa place, la retrouver, perdre sa place, la retrouver. C'est le film avec Justine Triet, le premier, c'est Victoria. Où là, peut-être, je comprends mieux ce que c'est qu'être acteur. Je comprends mieux ce que c'est qu'un rapport avec un metteur en scène. Il y a quelque chose qui s'agrandit. Et on sent très fort, intimement, qu'on ne pourra plus faire les choses comme avant.
On vous proposer peu de personnages vénéneux, par exemple.
Oui, c'est normal.
Que vous étiez...
Je suis pas sûre qu'on propose beaucoup à Eva Green de jouer des caissières de supermarché. Hein.
Mais que vous vrai. Étiez, d'une certaine manière, alors vous, comme Eva Green, prisonnière d'une morphologie.
Oui.
Parlons de vous, oui.
Ah oui, donc moi, j'étais à l'inverse. Ben oui, c'est normal. Enfin, je veux dire, quand vous voyez Eva Green, je suis sûre qu'elle a envie de jouer des... Pourquoi, je ne sais pas pourquoi je parle à sa place, sa fille. Mais... Non, mais parce que vous dites vénéneux, du coup, je pense à elle, parce que s'il y a une morphologie physique, il y a une voix, un truc. On voit bien que c'est une femme qu'on ne peut pas... Enfin, en tout cas, moi, ce qu'elle me projette, c'est... Elle arriverait ici, mon micro me tomberait des mains, je ferais... Oula, okay, oula. Moi, je n'inspire pas... Je dis pas que j'inspire le dégoût, hein, mais j'inspire... Je sais bien que c'est plus accessible, c'est plus accessible. C'est une morphologie, c'est la Belgique, c'est la télé, c'est... Voilà, donc... Mais ça peut être aussi un peu enfermant. C'est comment on essaie d'élargir. Quand on est acteur, on peut... Je ne suis pas sûre qu'on puisse... Je suis même sûre de l'inverse. On ne peut pas tout jouer. On a quand même des couleurs dans lesquelles on est plus crédible et plus juste. Donc, moi, je pense que je pourrais jouer... Parce que dans Vénéneux, j'entends... alors, j'entends le truc de la femme fatale. Ça, je crois que... Non, ça, je pense que ce n'est pas complètement... fait pour moi. Mais j'entends l'idée du danger. Le danger peut venir par plein d'autres choses qu'une séduction mortelle, enfin, je veux dire. Donc, jouer quelqu'un qui a du mauvais en lui, je pense que je pourrais, moi. J'ai suffisamment de mauvais en moi pour pouvoir le jouer.
Virginie, aujourd'hui, vous êtes une actrice sollicitée, plébiscitée, acclamée même. Pour autant, vous avez déclaré ce pouvoir, ce statut, je n'en fais pas grand-chose. C'est-à-dire...
Oui, c'est-à-dire là où je pourrais en faire quelque chose, c'est d'abord, si on pense juste au métier, c'est d'initier des choses. J'essaye, hein, franchement, j'essaye. Là, j'ai dans mon sac un livre où je pense que ça ferait une adaptation super. Est-ce que je suis incapable d'aller voir un metteur en scène en lui disant « je vous aime beaucoup, je penserais super qu'on travaille ensemble ». C'est comme si j'allais voir quelqu'un qui je ne suis pas sûre de plaire en disant « je pense que ce serait super de sortir avec moi ». Bah non, il a... Enfin, je ne sais pas quoi. Donc, si je vais avec un livre ou quoi, je peux lui dire que c'est l'idée. je ne sais pas, juste, ce serait génial de travailler avec moi, c'est, j'ai une idée, donc peut-être que... Bon, voilà. Mais donc, oui, ce serait ça. C'est ça qui est intéressant, si on, tout d'un coup, on arrive à avoir une petite place quelque part, c'est de l'utiliser pour... Après, je le fais dans les choix. Là, par exemple, le dernier film qui est sorti, Rien à perdre, c'est un premier film. Et au départ, sur la production, c'était difficile. Le film ne peut peut-être pas se monter. Du coup, je connais un producteur, je peux lui passer, faire en sorte que les choses se mettent à exister, alors que ce n'est pas forcément facile qu'elles existent. Et c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de films. Et pour qu'un film arrive à se faire, c'est pas évident. Le parcours de réalisateur, c'est quelque chose, quoi. Donc ça, et sinon, je ne vois pas très bien de quoi on pourrait se servir. Sinon, peut-être pour les causes et tout ça, mais... complexe ce truc quand même. Je crois que je préfère les engagements pas trop exposés.
La bonne place, c'est celle où le corps respire, dit la philosophe Claire Marin. Où est-ce que votre corps respire ?
Vous avez 2 heures.
Non, je comprends cette réponse du corps, en fait, qui vous indique quelque chose. Parce que parfois, on peut aussi... se mentir, ou dire là tout est bien en fait, ou tout correspondrait à une forme de schéma qu'on se serait imaginé avant. Ça, j'ai eu la chance de jamais avoir l'idée qu'il y avait un petit endroit précis où ça serait vraiment formidable et super. Je l'ai senti récemment. En fait, ils sont rares les moments où on perçoit très, enfin pour moi, hein, distinctement le grand bonheur ou même le grand malheur. Parfois, il m'est arrivé sur des choses tristes de le raconter. De raconter, je ne sais pas, par exemple, un parcours sentimental plutôt jeune, quelqu'un à l'époque et tout ça, qui me disait « Ah, ma pauvre !» et tout. Je disais « Ah, bon, ah oui, tu... » Enfin, je ne sais pas, on ne voit pas toujours que le truc ne va pas. Ou... Moi, j'ai pas été traversée par des grands drames aussi, hein, faut quand même voilà, préciser ça. Mais j'ai senti récemment une impression très vive de bonheur. Alors, intéressant. Donc, je vais quand même rentrer dans l'intime. Je viens d'être maman, là, pour la deuxième fois. Et l'idée, comme ça, sur cette seconde grossesse, ça, c'est aussi un truc qui a changé. Qu'éventuellement, je pouvais ne pas l'être bien. Parce que moi, je me suis pris un coup dans la tronche il y a 10 ans, quand j'ai un enfant. C'est-à-dire qu'avec elle, tout de suite, j'étais amoureuse d'elle. Enfin, j'aimais ma fille. Mais moi, j'étais perdue. Je ne savais plus c'était quoi mon identité. Je ne savais plus... qui j'étais, j'ai l'impression que transmettre, ça veut dire que moi, ma vie était finie. Ça m'a mis du temps avant de réintégrer quelque chose et de comprendre où était ma place. Vraiment beaucoup de temps. Et à l'époque, quand même, enfin, l'époque, c'était pas non plus dans les années 20, hein, mais y avait, on parlait moins du fait aussi qu'on pouvait être paumé, quoi. Il y avait vraiment cette espèce de chose dans ce que j'entendais. Ah, ça va être le plus beau jour, le plus beau. Donc, voilà, quand on s'attend à que tout soit vraiment formidable, facile, naturel, tout ça, on est très déconcerté par ces moments de doute, ces moments de solitude, ces moments de... Parce qu'on ne vous l'a pas dit. Là, j'étais prévenue, en fait. C'est-à-dire que je savais que quelque chose éventuellement pouvait... Et bah, du coup, j'étais très bien. Par chance, et pas que par chance, je suis assez bien accompagnée. Mais le fait de savoir ça fait aussi en sorte qu'il n'y a pas de... Dès qu'il y a une sorte d'obligation à... Genre, c'est le plus beau moment, du coup. Donc, c'est assez génial quand il n'y a pas cette obligation. Je trouve que ça permet plus, éventuellement, de l'être. Ce qui était mon cas, là. Donc, je dirais que la dernière fois, où j'ai perçu un moment très anodin d'une journée sous ma douche, voilà, je me dis, waouh, je l'ai eu violemment, le truc harmonieux.
Qu'est-ce qui est déplacé, selon vous ? L'a-t-on jamais été avec vous ?
Ah ! Déplacé dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est déplacé ? Si on a déjà été déplacé avec moi ?
Bah ouais, évidemment. Il n'y a pas un parcours de femmes et d'hommes d'ailleurs. J'ai jamais dit un truc déplacé, quoi. Donc oui, on était plein de fois devant des choses déplacées. Moi, je suis contente que qu'avant, je laissais plutôt dire. Hein, c'est étonnant. Bon, je l'ai déjà raconté ça dans une interview, mais je me souviens qu'à quoi, je devais avoir 15-16 ans, un prof... Quand je disais que je voulais être actrice, il disait, ah, tu veux être pute et tout ça, ou bien mon copain m'avait rendu de l'argent, bah, combien tu la payes, etc. Il avait beaucoup de petits sketchs comme ça. Et tout le monde riait dans la classe et je riais moi aussi. Donc avec le recul, je me dis, tiens, qu'est-ce qui faisait que je me marrais moi à ce truc et que je n'en parlais pas du tout chez moi après, hein. Mais en fait, ce sont des choses qui jouent sur une image de vous-même, quoi. Et puis oh là, on sait très bien que pour un professeur, c'est pas possible ce genre de truc. Ce qui est pas mal avec toutes les choses qui se passent, c'est que je pense d'abord que ça se produirait moins. Ou je pense, c'est pas trop naïf de croire ça. Moi, je crois quand même que ça bouge, ou j'ai envie de croire. Et je suis sûre d'une chose, puisque ça, je le vois plus dans une éducation qui est faite aussi, que je pense que ma fille ne laisserait pas trop dire ça. Donc, voilà. Et sinon, le déplacement, moi, j'aime bien l'idée, plus en psychanalyse, sur ce que m'évoque le déplacement, c'est l'idée que face à une situation, soit on se déplace, soit on est dans une acceptation, on en fait quelque chose. Soit on reste à l'endroit où on est, on en fait quelque chose. Genre, prenons un exemple comme ce dont je viens de parler. Ok, est-ce que tu veux faire des films à la... Bon, bah, soit j'accepte que je suis dans cette place-là en France, qui n'est pas si mal, et on en fait quelque chose, etc. Ou alors bouge, hein, si tu n'es pas contente. Enfin, ça a l'air très simple, tout d'un coup, la vie, c'est pas si simple, mais bon.
J'ai l'impression qu'en
psychanalyse, on arrive quand même à se dire qu'il y a un déplacement ou une acceptation, et comment on fait pour ce déplacement, et comment on fait pour cette acceptation, quoi.
Virginie Fira, merci.
Merci.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Je suis Marion Ruggieri. Vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Michael Liot. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous. À très vite.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.